CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, du caractère au plomb, une chasse fixe, des courbes de Bézier et des ligatures serrées. Oh oui, très très serrées. L'équipe aujourd'hui, Solarus et Dascritch, nous interviewons Benoît Sicre, scénographe, et Émile Sacré, directeur artistique de l'agence Bakelite. Et j'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux. Ce serait sympa, parce que sinon, ça va faire du bruit, ce serait dommage. Allez, c'est parti.
CPU, carré et petit utile.
Bonjour Solarus, tu vas bien ?
Salut, ça va toi ?
Très bien, nous sommes donc chez l'agence Bakelite qui nous reçoit. Bonjour donc Émile Sacré, merci de l'accueil.
Salut, intro hallucinante.
Merci beaucoup aussi à Benoît Sicre de l'accueil.
Bonjour.
Et normalement aujourd'hui il se trouve que pour cette émission consacrée à la typographie, c'est Myriam Schaff qui devait réaliser l'interview. Malheureusement, alors je ne sais pas si c'est le fait que une boîte qui s'appelle du nom d'Alphabet et détrôné la marque préférée des graphistes, à savoir Apple, dans le record des boîtes les mieux cotées en bourse. Où Myriam, là, l'accident bête, elle doit contempler des lettres Alphabet en pâte dans de la soupe, devant ses gosses qui doivent recopier les 500 fois la même phrase, les consonnes en vert et les voyelles en rouge. Je dirais que c'est beaucoup, beaucoup moins drôle. J'allais oublier quelque chose. Bah oui, bien sûr. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui vas nous écouter aujourd'hui dans une émission qui aura son caractère. Au début de l'informatique, quand la machine sut écrire des chiffres et des lettres, 9 lettres, tous les symboles étaient d'une largeur fixe, qu'ils soient un M ou un L, ce que l'on appelle du monospace chez les concessionnaires automobiles. La raison de cet égalitarisme horizontal venait du fait qu'à l'époque, on utilisait des appareils à télétype, des sortes de machines à écrire qui étaient branchées sur le télégraphe, pour discuter avec le gros ordinateur, qui est dit lors de la post-clope qui siégerait au fond du couloir à côté de la direction générale. Alors oui, il y eut des fantaisistes qui firent dans les années 50 des polices dites informatiques, car régulaires et futuristes en diable. Mais ces polices-là, elles se servirent finalement que pour les publicités et les films d'anticipation. Puis, quand le tube cathodique devint enfin utilisable par le dit ordinateur, on divisa sa surface en une grille, en général de 80 colonnes par 25 lignes, où il ne fut permis qu'à un seul caractère d'exister à la fois dans chaque case. Les premières polices de caractères spécifiques à l'informatique firent leur apparition avec cette curiosité pour ceux qui connaissaient l'imprimerie de cette contrainte qu'est le pixel. Le caractère devait donc être dessiné à partir d'une grille monochrome élémentaire, c'est-à-dire donc des petits points indivisibles, soit noirs, soit verts, enfin ça dépendait du terminal que vous aviez, hein, ou d'une taille généralement égale à 8 pixels horizontaux par 8 pixels verticaux, 13 chez les moins chiches. Et encore, le nombre de caractères était limité, pas plus de 224 affichables, ce qui posait des problèmes dans certains cas particuliers. Non. En fait, cela a posé des problèmes au monde entier, mais il faudrait plusieurs émissions pour en parler, par exemple sur cet Unicode et tout le reste, donc on ne va pas s'en sortir. Enfant du futur immédiat, un jour, la RAM devient moins chère et arrivèrent les modes graphiques en plus du traditionnel mode texte. Il devint alors possible de faire en sorte que la largeur des M et des L ne soit plus la même que celle des L ou des O, ce qui ajoutait en lisibilité. Il devint aussi possible de faire des lettres à des tailles différentes, d'avoir des variétés de polices plus grasses ou en italique, c'est-à-dire penchées sur la droite, bref, plus libérales. Tout d'un coup, les symboles affichables n'étaient plus cadrés dans une grille rigide, même si les pixels étaient encore la base élémentaire d'affichage. C'était à une époque où l'art de l'enluminure et du lettrage commençait à s'exprimer dans les rues à la bombe. Et encore, différentes améliorations graphiques, comme l'anti-aliasing, allaient ajouter au rendu des polices de caractère une élégance et donc dépasser les limites météorique de l'affichage. La police devint vectorielle, libre, et foin de bœuf carotte ont été même plus limités par le nombre de symboles. Go sur les lettres arabes qui s'écrivaient ligaturées de droite à gauche et les kanji japonais accompagnés de leur kana en furigana. Bien des années ont passé. Les écrans ont maintenant la même finesse qu'une impression quadrichromique, environ 300 dpi. DPI, c'est point par pouce. Un pouce, c'est 2 cm 54. Non, ça va être un peu compliqué, là. Donc, les limitations qui dictaient l'aspect des caractères ont désormais disparu. Ainsi, la primauté artistique aux fontes non sérifées, comme la Helvetica sur la Guerre à Monde, pour un problème de confort de lecture sur écran, est-elle maintenant un débat d'arrière-garde ? Cela fait depuis les années 80 que les polices prévues pour l'imprimerie sont désormais conçues sur ordinateur. Et en fristons même l'excellence, il est possible par exemple de faire une ligature entre un F et un I consécutif sans même y penser, c'est le système d'exploitation qui le fait à ta place. Bon, celle du E dans l'eau, non, parce que là c'est le rôle du correcteur orthographique, parce qu'on en change de glyphe, enfin voilà, vous irez voir, c'est dans les caractères spécifiques, j'ai un chanset pour ça sur Unicode, quelque part vers F1, F2. Même les standards du web ont évolué vers des règles de typographie moderne et peuvent même charger les polices à la volée, spécifiquement au site web d'une entreprise. Par exemple, la police du site web de notre programme cpu.pm utilise la police... Non, je ne vais pas le demander, je vais le demander à nos invités, puisque je suis sûr qu'ils sont capables de reconnaître quand même quand on utilise une Zephyr script italique et tout, même déformée. cpu.pm, ouais.
J'y vais.
Ouais, vas-y. Sinon, c'est pas drôle.
Ouais.
Alors, pas celle du player audio, ouais. Mais celle du titre. Hein.
Avec l'adresse cpu.landmiroir.fr.
Ouais, entre autres. Hein.
C'est une linéale, déjà.
Donc, alors, il faut expliquer un petit peu, linéale. Hein.
Qui n'a pas d'empattement.
Voilà. Donc, il n'y a pas les petites queues. Ouais, voilà, pas mal.
Asseoir,
c'est la même police sur le texte principal, effectivement.
C'est pas de l'Helvetica, non, il n'y a pas du tout.
Pourtant, vous la voyez tous les jours, celle-là.
Est-ce que c'est une DIN ?
Non.
Putain, ça aurait pu. Myriad ? Myriad ?
Non.
Non, c'est pas Myriad.
Alors là, en fait, on est en train de parler en fait en fonction des fondeurs, des polices. On va parler tout à l'heure des fontes, on va expliquer tout ça. Pourtant, vous en servez tous les jours, puisque monsieur est sur donc, un Android. Donc, il devrait savoir que cette police s'appelle la police Roboto, créée pour Android exprès par Google, que l'on a choisi de par sa simplicité, la légèreté des fichiers à télécharger, la lisibilité en petite taille, le fait qu'elle soit compacte, rendue, et surtout l'absence de redevance à payer pour son usage. Et la ponctuation qui avait fleuri au Moyen-Âge et à la Renaissance avant d'être réduite au symbole simple de maintenant, point, virgule, guillemets, trois petits points, fermez la parenthèse, virgule. Les voici qui reviennent à la charge avec les caractères décoratifs dingbats et depuis une génération débridée, les emojis colorés et animés. Non, animés pas encore, ça c'est dans Unicode 10.
Et l'emoji caca.
Monsieur caca, oui. Ça, c'est le seul que t'as retenu. Hein. Tu connais le code point par cœur, toi. Enfant du futur immédiat, l'informatique a permis à la typographie de dépasser les limites physiques traditionnelles. Mais la typographie est un art dont il ne faut pas en négliger l'histoire, les enseignements et les usages. Ich bin ein Comic Strip Disc Girl. Meine Zähne sind wieder Schnee. Meine Haut ist wieder Strand. Ich riech nach nichts. Die Brüste sind bei Vermusen. Die Beine sind keine Tattoo. Mein Mund ist eine Serose. Und ich kann sprechen, Geräusche machen. Ich bin gefährlich. In meinem Bubble muss ich wuseln. Schreibt man aus wie ein Wacker. Es funktioniert mit Batterien. Tausend Gold von der Firma Wonder. Ich bin ein Comic Strip Disc Girl. Ich habe ein Dingschen Flugzeug. Ich reite auf einem Einhorn und habe Angst vor nichts. Ich bin ein Comic Strip Disc Girl. Springe heraus aus dem Gemüt. Nimm deine Arme auf den Tisch. Sei vorsichtig. Stéréo Total, Comic Strip Tease Girl. Extrait de l'album Jukebox Alarm. Évidemment chanté dans la langue où on tombe sur un double S qui ressemble à un B et non, ça ressemblait à un autre symbole aussi à une époque, mais ça tirait un peu la gueule. En ce moment, à la médiathèque de Toulouse, vous pouvez voir une exposition sur la typographie traditionnelle, celle qui est analogique au caractère amovible de plomb recyclable et aux lettres 7, marque déposée. Au grand désespoir de ceux qui ne pourront pas s'y rendre avant fin mars, l'événement ne sera pas reproduit ou réédité. Néanmoins, nous avons sauté de page sur l'occasion pour faire parler les fondeurs modernes de Font, Police et autres groupes de glyphes amusants. Nous avons donc le bonheur d'enregistrer au sein de l'agence Bakelit, qui a entre autres réalisé quelques œuvres justement pour la dite exposition, mais qui est aussi une agence de communication qui réalise entre autres des polices sur commande. Nous interviewons donc Benoît Sicre, graphiste scénographe, et Émile Sacré, directeur artistique.
CPU, carré petit utile.
Alors depuis tout à l'heure, parce qu'il y en a qui ont râlé sur le document de travail, parce que je confonds police, fonte et typographie, et typo, pardon, tout court, qui peut m'expliquer du coup quelle est la différence entre les trois ?
Bah déjà, si on prend la typographie, ça va être...
Benoît Sicre.
Oui, pardon. C'est moi.
Voilà. Il faut que je t'introduise.
La typographie, c'est la création des caractères en vue de la reproduction. Donc, c'est forcément issu de la calligraphie à la base. Donc, la création de caractères, donc de partir des 26 signes clos et autres, et de passer après à des mots et à des pensées. Et donc, c'est l'aspect mécanique. L'aspect de reproduction qu'on va avoir dans la typographie. Après, pour faire vraiment la différence entre police et fonte, là, moi, je ne suis pas assez calé pour pouvoir vous répondre. Très sincèrement.
C'est pas les mêmes lettres.
Émile Sacré, oui.
Déjà, c'est pas les mêmes lettres.
Dans le mot
voilà.
Oui, c'est vrai, ça s'écrit pas pareil déjà.
D'accord, oui, forcément.
C'est un argument.
Oui, ouais. Oui, c'est
fonte,
prototype. Prototype.
Fonte, il y a plus l'idée de matière, certainement, en faisant référence au plomb. Mmh. Je pense que c'est un terme qui a été utilisé ancestralement.
Enfin, probablement, je ne sais pas. Non.
Vraiment, puis c'est un anglicisme aussi, fonte, ouais. F-O-N-T de l'anglais.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
Bon, alors d'après ce que je sais, en fait, une police est une collection de fontes. Puisque la fonte, c'est oui. La taille de ouais, caractère, oui. La voilà. Graisse et tout.
Ouais.
Non mais j'y crois pas quoi.
Ouais.
Vous avez fait quoi ? Vous avez fait Beaux-Arts, c'est ça ? L'école est pas loin ?
Ah oui, pour ma part, oui. Oui, oui.
Ouais. Ouais, ouais. Quoi,
ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc après, je vais pouvoir développer sur plein de trucs, mais voilà.
Ouais. Alors, alors justement, en fait, quel est votre parcours ? Quel est votre parcours très avant différent. De devenir justement dans votre rôle en
ouais.
Tant que
très différent,
que designer.
Ouais, très différent, ouais, ouais. Et après, pour parler un petit peu de Bakelit et de ce que c'est la réunion de 6 travailleurs indépendants, donc avec des compétences complémentaires dans le domaine de la communication visuelle et de l'aménagement d'espace. On va faire vite et sans reprendre ma respiration.
Et on a une baseline
voilà.
Qui est un peu Bakelit, design global et solide.
Ouais. D'accord. D'un autre côté, vous produisez, c'est de la communication globale. Hein. Il y a de la vidéo, il y a de la peinture, il y a un peu de tout. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes lancé dans la typographie, réellement, dans les canons du genre vas-y, que je te sors le TTF.
On l'utilise.
Bon, allez, une type 3.
Ouais, on l'utilise en permanence.
Quotidiennement.
Quoi. Alors voilà, que ce soit... effectivement pour le travail d'édition puisque on travaille l'édition à Bakelit donc on en utilise beaucoup que ça soit la création d'identité visuelle donc on l'utilise pareil au quotidien et après dans le travail d'aménagement d'espace on inclut très souvent le mot la phrase et la pensée et réaliser de manière manuelle avec le savoir-faire. Donc c'est des choses différentes, mais après au quotidien, effectivement, on la travaille et on la veut omniprésente dans notre oui. Travail.
Alors qui commande de nos jours une police et qui ne va pas se contenter en fait d'une police qu'il aura piochée gratuitement sur dafont.com ?
Pour ne pas te mentir, de la création de typo, on n'en fait pas.
D'accord.
On en crée dans un certain cadre qui est de lorsqu'on veut sortir une typographie de la pure et simple lettre pour jouer avec les formes, le vocabulaire de forme, pour créer de l'image grâce à la typo.
Donc c'est plus de la titraille en fait que, du, ouais. Que de la police.
Ça peut être du motif, ça peut être ouais. Ça peut avoir plusieurs typologies. Mmh. Et après, sinon, on fait de vrais travaux, de vrais projets d'identité visuelle, où là, on utilise forcément des typos déjà dessinés pour coller plus ou moins au, ouais. Au sens que l'on veut donner à ce qu'on dessine, ce qu'on écrit. Mais
après, voilà, c'est, par exemple, si on travaille sur un logo, vraiment, le processus autour de la conception d'une identité visuelle, il y a forcément une part dans la charte graphique qu'on rend, c'est-à-dire le document qui va donner les règles d'utilisation du logo.
Des préconisations.
Voilà, des préconisations. Et après, forcément, un chapitre dédié à la typographie. Et après, on conseille. Mmh. Donc, on va choisir pour le client, même voir avec lui, quel typo ou quel au singulier comme au pluriel, ouais. Quel typo on va utiliser, enfin, que le client va utiliser.
Mais c'est un peu faux ce que je t'ai dit. Enfin, on en crée forcément, et notamment beaucoup dans des projets interactifs ou des projets de motion, de graphisme animé. Là, ça nous arrive souvent quand même de designer nos propres caractères pour avoir plus de modularité pour faire vivre ces graphismes.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé comme ça, par curiosité, c'est une situation que j'ai connue plus d'une fois, assez rigolote, un client qui arrive avec je veux telle police pour la charte de mon entreprise, etc., et se rend compte que, ah mince, il manque les accents.
Oui.
Elle a redessiné et a finalement complété un travail d'un autre.
Oui.
C'est une typo bâclée.
Oui.
Pas prévu pour
qui est l'auteur,
nos pays.
Qui est l'auteur.
Ouais. Mais après, oui, c'est vraiment dans le travail typographique, on en parlait quoi, sur l'identité visuelle ou alors sur le jeu de titrail, où là, il peut vraiment y avoir de la création. Mmh. Sinon, après, voilà, sur le texte, on va dire, utilisé, que ce soit sur le web ou sur le print, ce qu'on appelle texte de labeur, bon, bah, là, il y a déjà des polices de caractère qui sont faites pour et qui sont exceptionnelles et qu'il ne faut pas y déroger, quoi, tout simplement.
Oui, parce qu'on explique, il y a la police de labeur, en fait, pour le print, et la police de la joie pour le web, pour le mettre sur les sites porno. Quand on crée, en fait, une police, quelles sont, en fait, vos inspirations en général ? Est-ce que c'est direct, c'est une lettre ? Ou des fois, c'est une forme, c'est une courbure ?
Oui, c'est avant tout ça.
C'est, par exemple, les arcades d'un bar.
Tout à fait.
Il y a abstraction et figuration.
Ouais. Non, mais après, c'est comme sur le travail de recherche en conception d'identité visuelle, c'est qu'on part jamais et on n'attaque pas un outil, on part et on réfléchit. Donc en réfléchissant, effectivement, il y a des inspirations, il y a des croisées. Ce qui est intéressant aussi dans nos domaines, c'est d'avoir plusieurs lectures dans ce qu'on réalise pour un client. Donc voilà, c'est vraiment des inspirations. Donc on ne le voit pas en tant que caractère, en tant que lettre, on travaille en tant que forme et contre-forme.
C'est ça.
Ouais, à ce moment-là. Ouais.
Et des fois, il y a vraiment une liaison directe en fait entre la police et un élément que vous aimeriez inclure dans une création.
La police ou la typographie ?
La typo...
Mais après oui.
Les bœufs carottes, voilà, ça y est.
c'est primordial, vraiment primordial pour nous quoi. C'est pour ça que le slogan qu'on accroche, on va dire de Back Elite et design global et solide, c'est qu'on essaye de faire en sorte que de connaître un maximum le sujet pour lequel on nous appelle, et après d'essayer de lier l'ensemble des productions dans une logique. Alors une logique pour appuyer ou une logique pour compléter, pour jouer de prisme ou jouer de microscope. Ouais, c'est vraiment ce jeu-là. C'est vraiment dans la notion globale, d'essayer de faire en sorte que tout fasse sens, puisque nous, nos métiers, c'est de raconter des histoires. Donc pour qu'une histoire soit bonne, il faut qu'elle soit bien ficelée.
D'accord.
Et le sens découle vraiment directement dans la création d'une fonte, d'une typo.
Oui. Et puis déjà, si on prend la polysémie du mot caractère, là, tout est dit, quoi. C'est-à-dire dans le choix d'une police, on va déjà induire...
Ce qu'elle va connoter. Ouais.
Voilà, quelque chose. Et ce qui induit, c'est quand on le prend comme signe et comme forme.
Donc du coup, est-ce que, pour aller plus loin sur l'étymologie, des fois, est-ce qu'il n'y a pas une émotion que vous souhaitez faire passer
toujours
sur certaines polices, où il y a une obligation justement d'essayer d'être neutre?
Non, c'est ce qui va créer une atmosphère particulière et singulière au final pour chaque projet.
Ouais. Et puis voilà, c'est on parle d'identité. Si on parle de caractère, on parle aussi d'identité quand on dit identité visuelle. Donc ça y participe. Donc sur l'identité visuelle ou sur le jeu de titrail, quand il y a de la création typographique, c'est induit.
Et souvent,
après, j'y reviens, mes textes de labeur, voilà, on va être. Il y a des choix à faire. Il y a un travail là-dessus et la typographie est faite pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit lisible en fonction du support.
Et souvent,
mais là, c'est plus efficace, c'est moins, on va dire, créatif. On va dire, c'est plus technique à ce moment-là pour le confort.
Et souvent avec les clients, c'est on leur dit, je te prends la main et ne t'en fais pas. On va vraiment faire un travail sur l'identité visuelle qui questionnent forcément la typographie. Quoi. Ouais. Et puis on les accompagne, quoi, les, voilà, les clients.
D'accord. Quand vous créez une police, ça, passe, ça se passe comment ? C'est d'abord à l'analogique, au crayon et ouais, papier
toujours,
et gomme
toujours,
ou...
toujours, toujours.
Pas direct du vectoriel ou un truc comme ça ?
Il faut, pour ceux qui le maîtrisent et dont c'est l'outil et que la création passe par là, oui. Sinon, et c'est très rare, il faut absolument l'éviter. On le voit régulièrement avec des stagiaires qu'on accueille ou d'autres collaborateurs. Ceux qui n'ont pas un crayon et un papier sous la main droite ou gauche, hein, en fonction de...
c'est corvée de café.
Voilà. Oui, 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 là, t'es puni, quoi. T'es puni parce que l'évidence vient du crayon et pas de la souris, quoi, très sincèrement.
D'accord. Ouais, ouais. Et à partir de là, une fois qu'elle est travaillée, ça se passe comment ? C'est scanné pour ensuite être vectorisé ?
Ouais, ouais, ça passe dans
un écran, en tout cas.
Toutes les moulinettes, quoi. Mais après, on passe assez rapidement sur le vectoriel.
Et sur les courbes de Bézier.
Et sur les courbes. Ah, passer sur les courbes de Bézier.
En 3 points ou 4 points. Ouais. et comment vous faites, en fait sur, c'est-à-dire, il y a des lignes, il y a des hauteurs, il y a déjà des indications, par exemple, sur ce que vous appelez la largeur du fût, des trucs comme ça. Je vous rassure, hein, on renverra les auditeurs sur les liens sur le site.
Pas de souci. Pas de souci. Non, on va pas jusqu'à ces questionnements-là entre nous, quoi. C'est chaque membre de Bakelite connaît à peu près sa partie et après on communique assez bien, quoi. Donc là, il y a pas de. Il y en a pas rentré dans ces caractères-là. Enfin, ouais, dans ces petits détails-là, quoi. Par contre, après, dès qu'on devient technique, c'est effectivement ce qu'on appelle. L'approche, c'est-à-dire la distance entre les lettres, du fait qu'elles s'imbriquent bien, parce qu'il y a des différences. Après, ça va être au travail de ce qu'on appelle de grille aussi, avec l'interlignage, c'est comment ça s'enchaîne. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là.
Quelle destination a cette typographie ? Justement, on parlait de texte de labeur, mais est-ce que c'est une typo vraiment plus adaptée titrage, voire même graphisme ? Il y a des banques de typos aussi qui fonctionnent avec des principes d'ornement aussi qu'on peut répéter. Mais la destination, c'est vraiment important, quoi. Le but de la création de ce caractère. Ouais.
Quels sont les logiciels, en fait, que vous utilisez et comment, en fait, vous visualisez vos textes en général ?
Bah, suite Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign et compagnie. Et après, pour la création plus spécifique de typos, ça nous arrive de travailler avec FontLab, qui est principalement le soft adapté.
Qui est un outil qui a un certain prix, mais qui le vaut, en tout cas.
Oui,
vraiment. D'un autre côté, est-ce que il y a une différence lors de la création d'une police entre ce qui va être utilisé, justement une police de print, donc de labeur, et une police que vous allez dessiner pour l'électronique, c'est-à-dire soit pour l'animation, soit pour le web ?
Ben c'est chaque.
Il y a moins de barrières aujourd'hui.
Ouais.
Ce problème-là, il n'existe quasiment plus. Justement, tu parlais d'anti-aliasing, de finesse vraiment de l'affichage, la résolution.
Ouais.
Print et numérique maintenant, tu peux complètement faire
ces questionnements-là,
un truc transversal qui soit cohérent.
Ouais. Mais après, il s'agit de prendre en compte la façon dont on utilise le médium. C'est-à-dire, si on est sur du print, on n'y accorde pas la même chose si on est. Sur de l'écran, on ne le regarde pas aussi de la même manière. Donc c'est plus la façon dont on aborde la typographie, et le temps qu'on y consacre et la façon dont c'est utilisé. Que...
Le choix la typo, à la limite, on s'en fout. C'est plus le comment elle va être utilisée dans tous ces paramètres qu'elle propose. Le corps, pour faire simple. Mais après, voilà, la chasse, quel interlettrage, etc.
Solarus ?
Oui, vous parliez de différence entre print et digital. Les clients ont bien compris ça. Il n'y a pas des clients qui vous demandent du digital en A4 ou des choses comme ça.
Ah ben c'est toujours pareil. Hein. On reçoit toujours des logos en JPEG de 24 KO, quoi, pour une affiche. Hein. Ça ne changera absolument jamais. Ouais, ouais. On nous
demande des GIFs aussi. En ce moment.
Ah oui, mais c'est à la mode. Pour plomber les bandes passantes, maintenant qu'on a la 4G, on peut. Quoi.
Sur Facebook, c'est la fête. Quoi. Depuis quelques mois, il y a des GIFs.
On va faire une petite pause musicale. Et là encore, il va falloir deviner la police.
Tu peux
Portishead, Sour Times, Nobody Loves Me. Ouais, oui, je sais, ça fait un peu vieux, ça fait 20 ans. Mais voilà, c'est aussi indémodable que la police Times New Roman.
Exactement. Non, parce qu'il y a effectivement beaucoup de polices qui ont été créées quoi, il y a très longtemps et qui sont, comme nous on l'apprécie ici, c'est-à-dire solides, qui traversent vraiment le temps et qui sont d'une efficacité redoutable et qui sont des outils de, et j'y reviens quoi, de communication phénoménale.
Benoît Sicre, oui. C'est vrai que la guerre à Montre, c'est pas quelque chose que l'on se rend compte en fait de l'âge qu'elle a. Ouais. Même les polices, par exemple, ben là, tout récemment, il y a eu une discussion assez édifiante aux États-Unis. La police en fait qui est utilisée sur les panneaux routiers date de 1923. Elle est relativement vieille. Il y en a une plus récente qui a été faite, mais ils sont en train de la décommissionner tout simplement parce qu'elle coûte trop cher à l'usage. L'une des polices les plus classiques qui soit, on a parlé tout à l'heure en antenne de la Futura Canal Plus Isé, mais qui date des années 1920, et la Helvetica date des années 40.
C'est ça, quoi.
Donc, il reste une modernité incroyable. Ouais. Est-ce que justement, comme cela, il y a des modes qui reviennent, qui partent
On est beaucoup dans le rétro-moderne aussi, quoi. Ce purisme.
Est-ce que des fois, il y a aussi la perversion, le remix des polices qui fait que ça fait une petite moderne, un S à l'envers, comme dans Desigual, pour vomir sur le pattern?
C'est plus rare.
Après, c'est quand justement, on en parlait tout à l'heure, c'est quand la lettre ou le mot devient image, quoi. Donc voilà, il suffit des fois juste d'un twist, quoi, d'un jeu graphique sur une base typographique et ça marche. Parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse, mais Back Elite quoi, vient de réaliser l'identité visuelle du phare à Tournefeuille.
Qui est une salle de concert pour ceux qui n'habitent pas à Toulouse. Voilà.
Exactement, Donc
avec c'est vrai une imagerie qui se veut justement très révolutionnaire dans
l'aspect. Vous l'avez vu le logo
du phare, ben pas le nouveau.
Alors voilà.
Non, mais là si tu nous le montres, ceux qui n'ont pas payé la redevance couleur vont être très tristes. On mettra le lien peut-être sur le site internet.
Carrément, on a fait 6 heures aussi pour l'occasion.
Voilà. Mais spécifiquement, c'est là où l'identité visuelle est uniquement identité typographique. Et on a joué uniquement sur le reflet. En prenant une police classique, je crois que c'est une Helvetica, on est vraiment parti très... Non, Emile me dit non. Non, c'est pas une Helvetica.
Un peu plus technique.
Ouais. Voilà, c'est juste sur ce jeu-là. Donc tu parlais du S de Desigual à l'envers. Là, le phare, c'est juste sur le jeu de reflets pour créer un nouveau motif qui est typographique, mais du coup, qui ne se lit plus, quoi, mais qui fait quand même sens.
Le reflet génère un signe avec ce
type. Et typiquement, c'est typo blanche sur fond noir, et toute l'identité visuelle est basée là-dessus. Emile donc, vient de réaliser le premier teaser pour le lancement.
C'est particulier, ce projet, c'est bien d'en parler, parce que ce teaser explique comment lire le logo. C'est pas juste un teaser de « on va faire la fête, venez au phare, ça rouvre ». C'est plus quelque chose de didactique au final qu'on a fait avec du sound design aussi derrière.
Donc enseigner à des punks à chiens qui vont écouter des Che Guevara en puissance qui se prennent pour des Rastafari, ce que c'est que la culture graphique.
Pourquoi pas
tant qu'on y est les modernistes des années 30 de Moscou. Mais c'est honteux. Pour en revenir sur, sur justement sur l'usage des polices, est-ce que des fois vous revenez à ces grands classiques et vous dites à vos clients non, c'est quand même mieux celle-là, c'est mieux la, oui, la guerre à montre qui date de François Ier, elle marche encore très très bien, la Times classique, ce genre de choses.
On n'impose rien, on essaie peut-être des fois de passer par des sentiers un peu de travers et proposer des, justement comme je disais tout à l'heure, des évolutions de typographie connues et reconnues. Donc il y a toute une mouvance aussi avec les écoles d'art et les écoles où il y a de la création de typo, des étudiants qui diffusent en fait librement leur création de typo. Et là on se retrouve dans des choses un peu plus intéressantes avec certes des plein de problèmes d'approche et compagnie parce que c'est dans un autre cadre, c'est pas des typographes quoi. Mais c'est des éléments intéressants et pour le coup ultra modernes à utiliser.
Ça se voit vraiment du premier coup d'œil quand c'est une police qui est faite en amateur par rapport à quelqu'un qui en est à sa troisième, quatrième police commissionnée ?
Non, pas forcément. Mmh. Et j'en reviens à ces, voilà, les étudiants d'école d'art s'inspirent de codes et le transmettent à leur façon et il y a forcément des problèmes. Il y a forcément des caractères qui manquent, des approches qui ne fonctionnent pas, des accents qui manquent. Voilà. Et c'est l'horreur parce qu'on aime cette typo et on ne peut pas l'utiliser. Non.
D'accord. Sur justement les caractères qu'on oublie, qui ne sont pas faits, en dehors des lettres accentuées, qu'est-ce qui manque en général le symbole paragraphe.
L'esperluette.
Ouais, le « et », voilà. Le...
ouais, de la ponctuation principalement, des accents.
Ouais, après ça dépend de qui l'utilise, hein, parce qu'après, chaque graphiste, on va dire, a ses gimmicks typographiques, donc va gérer la typographie à sa manière, quoi. Il va mettre de l'identité dans l'identité.
Ouais.
Donc après, si on va vraiment être dans le détail, ouais, ça se passe comme ça, quoi. Ouais,
Et on est content qu'on a des projets anglophones parce qu'il n'y a justement pas d'accent utilisé.
Ouais. Moi, je me suis fait pour l'Université de Toulouse du chinois. Donc c'est très intéressant de faire la composition typographique.
Mais tu peux pas faire la relecture toi-même.
Non.
Surtout que le chinois, en fait, c'est à la différence des lettres telles qu'on connaît, des lettres latines, les sinogrammes sont vraiment... Il y a cinq types différents de traits, donc du coup, on pense différemment. On pense vraiment...
C'est comment retranscrire justement le trait du pinceau avec le chinois.
Ouais, mais j'ai essayé de le prendre en compte, quoi. Après, là, je n'ai travaillé que pour le coup que pour le signe et la forme contre forme, quoi. Donc j'ai essayé d'en faire quelque chose d'esthétique en oubliant complètement le sens, mais en ayant le sens par rapport à ce que j'avais en français.
Ouais, ça, c'est rigolo. T'as fait du copier-coller, quoi.
J'ai fait du copier-coller, ouais. Mais après, je me suis dit, ce paragraphe, il est joli, non, on peut l'ouvrir, pas l'ouvrir. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de blanc, c'est très rigolo. Et la typo était Simsoon. Alors, c'était super.
Et il y a une autre langue, un autre type d'alphabet que vous aimeriez essayer de travailler
Le premier, quoi. Donc c'est l'arabe, quoi.
Ah non, pas moi.
Ah ouais.
Moi, c'est le cyrillique.
D'accord.
Ah ouais, le cyrillique est plus franc. Ouais.
C'est joli.
Non, mais moi, ce serait plus. Ouais.
Ok. Arabe, ouais. Est-ce que des fois. Qu'est-ce que vous pensez des polices gratuites que l'on trouve? Donc, on a cité un site tout à l'heure lequel il y a beaucoup de repompages et de la bête des calques de.
Il faut aller fouiner comme
police payante.
Il faut aller fouiner comme un collectionneur de vinyle, quoi. Mm-hmm. En fait, moi j'en utilise beaucoup, perso.
Après il y a Skyrock et il y a Ediger, quoi. On le voit comme on veut, mais après c'est tout le monde peut l'utiliser, donc tout le monde l'utilise de toute façon, donc après
bonne punchline, très bonne punchline,
ouais, pas de problème, quoi. Franchement, ouais, c'est à chaque degré aussi. On peut aller loin, quoi, dans la typographie, mais au quotidien, quoi, on voit de la merde. Hein. Donc voilà. Donc, nous, on n'aime pas faire du caca.
Et on fait
donc,
avec.
Voilà.
Et sur les polices commissionnées, est-ce que vous les regardez, par exemple, les polices de la licence SEAL, qui est au départ en fait une société biblique américaine et qui fait des polices internationales qui sont super belles. Non.
Jamais entendu.
Jamais entendu.
J'ai entendu parler.
Il y a une licence libre qui s'appelle la OSL, où les polices qui sont commissionnées, par exemple, par les distributeurs, par les packagers de distribution Linux, comme la Ubuntu, la Libération, ce genre de choses.
Le problème de l'égalité de typo, tout ça.
C'est non, en dehors, indépendamment justement sur ces polices elles-mêmes et ce qu'elles sont censées faire, oui.
Sinon, tu fais comme la Adopi, tu piques bienvenue à France Télécom et tu te fais gauler pour piratage.
Ah oui, c'est vrai. Oh oui. Oh celle-là. Oh, chapeau bas. Celle-là, pour l'avoir ressortie, elle était pas mal, ouais. Mais indépendamment de la légalité, justement, les polices qui sont commissionnées et qui sont libérées pour justement des raisons institutionnelles, est-ce que vous les regardez d'un œil curieux? Vous dites oui, elles sont plus ou moins bien faites?
Non, très sincèrement, je ne connais pas le... Ouais, le sujet.
J'ai du mal à répondre.
Ouais.
À ça.
Je ne connais pas.
La colle. Ouais.
D'accord, bah, je le suis vraiment désolé. Est-ce que des fois, quand vous commencez à travailler sur un projet, et puis vous... Une soirée arrosée passe, une nuit bien dormie passe, et puis vous vous réveillez le matin, et puis vous revenez sur votre travail et vous dites... Non, finalement, cette police, elle est trop conventionnelle et trop attendue sur l'usage que l'on fait.
Alors, sur ces lendemains-là, franchement, c'est pas ça que je me pose. Quoi. Ouais. L'avantage à Bakelite, c'est qu'on a plein de trucs à faire et on peut passer de suite en mode manuel. Quoi.
Mettre le cerveau.
Mais manuel, ouais. C'est avec le balai. Et donc là, ça te permet déjà de, tu vois, ouais, de revenir à un niveau.
Tu fais
c'est cool.
Un reset.
Ouais, tu fais du café, tu mets 2-3 musiques de merde, t'essayes de te lancer. Quoi.
Ça doit être terrible.
Voilà. Si possible, du R&B des
ouais.
années 2000.
Donc après, ouais, un lendemain cuit, je vais pas me les poser, celle-là. Et franchement, je vais passer bien à côté. Hein. Ouais.
D'accord, vous êtes bien plus à faute que moi sur la programmation musicale vis-à-vis de vos collègues.
Oui.
Et des fois, quand oui. vous regardez le travail justement de charte graphique qui est conçu, ou ouais. même de magasin, vous dites ben, finalement non, elle est trop attendue, ils auraient pu le faire différemment.
Oui. Oui, il y a des trucs, ouais. Moi, ça peut m'arriver de me dire ouais, pourquoi comme ça. Déjà pour essayer de comprendre, et après de me dire pour essayer que ce soit.
Ouais, mais si ça interroge, ça veut dire que d'une part, ça marche.
Ah oui, toujours. Toujours, de toute façon, toujours.
D'accord.
Toujours.
Et des fois, quel est l'usage le plus décalé d'une police que vous avez vu ou qu'on vous a commandé?
On a fait un truc bien fou, enfin bien fou, c'est bien sympa on va dire, c'est la typographie et l'adaptation sur Métronome,
ouais.
la salle de musique actuelle à Bordeaux Rouge. Mmh. On a travaillé, enfin le début de la commande c'était créer un élément typographique qui va être en défense dans une façade. Donc c'est pas une typo qui va être sur écran ni sur papier,
c'est
du
vraiment
volume.
Donc c'est du volume, c'est vraiment de l'enseigne. Ouais,
exactement.
Hein, ouais. Oui. Et ouais. en fait toute l'identité visuelle, donc qui est cette typographie, donc une identité typographique, a été créée à partir de contraintes architecturales et de béton. C'est ça. Donc on va dire, l'approche elle était simple puisqu'on était sur du modulaire puisqu'il fallait absolument éviter toute courbe déjà. Il y a vraiment sur l'orthonormé.
Le haut ne pouvait pas avoir de rond dans le haut parce que c'est des éléments en défense. Si l'élément central n'y tient pas, il tombe.
Oui,
donc,
ouais.
donc c'est la seule courbe.
On revient en fait aux limites physiques comme les lettres majuscules accentuées,
et du binaire,
par exemple, qu'on faisait
et
pas.
Et du très binaire avec des traits, juste des formes géométriques ultra simples.
Ouais, ouais. Et revenir vraiment et c'est extrait de la matière. Donc c'était super intéressant de travailler là-dessus. Et là, voilà, on a fait une concession et ça a été compliqué à mettre en œuvre. C'est qu'on avait demandé à ce que le haut. Donc dans l'alphabet qu'on avait créé, parce qu'on a créé l'alphabet Métronome, ouais. finalement.
D'accord. C'est une création typographique.
C'est une création typographique et sur une base modulaire, mais donc la seule exception de la courbe est effectivement le haut. Donc de Métronome qui est comme un bouton on, quoi, et qui bat comme le cœur d'Odyssée de Kubrick. Quand le bâtiment vit, ça se voit et son tempo est marqué, c'est normal.
Ça ne fait
c'est
pas que s'entendre, ça peut se voir.
C'est aussi un métronome, donc on marque le rythme.
Donc
c'était
voulu,
important, voilà. Et c'était voulu, et là, voilà. C'était
et
vraiment...
truc super drôle aussi, c'est qu'en créant la typo très pattern, on va dire, comme sur un...
Modulaire, ouais.
Modulaire, mais comme sur un logiciel de musique où on met des patterns, une boîte à rythme.
Ouais. Ligne et colonne. Ouais.
En créant ça, on s'est rendu compte qu'on faisait même référence aux premières partitions des orgues de Barbarie.
Ouais.
On était pile dans le sujet de musique actuelle, musique.
Quand le papier.
La musique de rue aussi. Hein.
Quand
la musique actuelle
était mécanique et.
Ouais, et puis la musique actuelle aujourd'hui se nourrit énormément de choses anciennes.
Mmh. Quand le papier fait musique, quoi. Donc c'est intéressant.
Digital, c'était digital.
Et puis c'était les premiers systèmes de programmation d'ailleurs qui ensuite ont été réutilisés dans les métiers jacquard pour faire des tissus à motifs.
Ouais. Exactement.
Voilà.
Exactement.
Et ça, c'est de tête, messieurs.
Voilà, c'est gratuit.
Quel est de vous deux, quel est franchement votre studio de fondeur préféré, celui à qui vous avez envie de dire ouais, respect dans ta typeface?
Moi, c'est un bordelais. Qui se surnomme Jack Usine.
Okay.
Et il a fondé une fonderie, enfin voilà, de police qui s'appelle smeltree.net.
D'accord.
Avec des polices de caractère très très bizarres. Donc ça voilà, c'est un travail que je respecte.
D'accord, Émile. Benoît.
Alors moi c'est toute l'école du Bauhaus quoi. Pour moi, ouais. La typographie bien utilisée avec des textes, avec une époque et toutes ces choses-là. Quoi. Ouais,
c'est marrant parce qu'on parlait, on parlait tout à l'heure justement d'un Français qui s'était énormément inspiré du Bauhaus, Étienne Robial. Mmh. Je te montrerai une police qu'il a créée pour la cité de la bande dessinée Angoulême. Elle est illisible.
Oui.
Il s'est bien planté.
Ah mais voilà, mais ça fonctionne parce que ça interroge. Quoi. Ça laisse pas
peur. Ah non, là, c'est même pas la peine.
Ouais, c'est un massacre, c'est cool, donne.
Ça fait un peu mal. Je vois pas le rapport avec la BD des fois.
Du tropical.
Ah,
on y vient.
Et
ma vie, mon œuvre.
Et quitte juste comme ça. Question. Mais alors franchement, c'est vrai que celle-là, je me la poserai même pas. C'est dire si elle est. Si elle
la,
est
pose, si la pose pas. Écoute.
Quand vous ouvrez votre logiciel de traitement de texte et que vous choisissez une police, combien il y a de polices en fait que vous avez installées sur votre ordi? C'est en deux chiffres, trois chiffres, quatre chiffres?
Trois chiffres, oui, facile. Quatre chiffres, il y a moyen. Ouais.
Si, il y a moyen. Ouais.
Ouais. Et des fois, ça vous arrive de faire le ménage?
Jamais.
Jamais. Jamais. Ça prend pas trop de place sur un ordi, ça va. C'est pas des plombs qui ont été...
Quand en fait on a parlé tout à l'heure, c'est vrai, j'avais parlé un petit peu du web quand on a commencé à pouvoir incorporer une typographie sans avoir à l'installer d'abord sur son ordinateur, donc à charger dynamiquement une police de caractère. Vous, quelle a été justement l'émotion là-dessus sur le travail? Est-ce que soit ça a été des trucs qui étaient complètement à côté de la plaque ou des polices qui finalement se justifiaient vraiment?
En fait,
c'est récent, hein, c'était il y a 4-5 ans.
Donc comment on a vu l'évolution typographique?
Oui. Sur le web, quoi, ce qu'on utilise.
Ouais, sur le web, et même avant, j'avais connu tout petit le Minitel, et je m'amusais déjà, en fait, à composer, je ne savais pas m'en servir, mais à faire des frises de motifs,
en
de slash.
Stum. En stum 1B, fonction C, E, et escape.
Ah, j'en étais pas là, je devais avoir 4-5 ans, quoi. Et en fait, cette évolution de la typo sur écran, la façon dont elle a grandi en définition... ça, on l'a complètement aperçu, quoi. Enfin,
Ouais, mais c'est
toi, Ben, t'es né avant les ordis, donc t'as bien connu ça. Bam.
Ouais, tu me parles Minitel,
riposte,
quoi. Dessus, je t'aurais pas eu là, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Pour moi, c'est,
t'avais pas le même âge, voilà.
Ouais. Je vais taper le 315, là. Mais ouais, mais c'est une évolution continue, quoi. Donc, en fait, ouais... C'est des douces révolutions.
Été, quand on est passé justement des polices web safe à...
Ouais. Mais moi j'ai connu des galères sur Express, quoi, avec des livres de police, tu pleures. Quoi. Enfin, des
voilà, Quark Express, on explique, c'est l'un des premiers logiciels de PAO, entre guillemets, professionnel, accessible.
L'ancêtre d'InDesign.
Sur l'édition, quoi. Donc c'est vraiment sur la mise en page et la composition. Mais c'était l'enfer sur Terre, donc les polices c'était vraiment compliqué, quoi. Quand t'avais une erreur police, quoi, tu le payais cher, et tu l'as cherché longtemps, quoi. Ouais, non, moi j'ai franchement chopé des trucs, je devenais taré. Hein. Je devenais taré des nuits entières, quoi.
C'est peut-être là où tu as arrêté de faire l'économie des bons à tirer, t'as bien regardé.
Bah déjà, ouais, ça c'est déjà une école, quoi.
On explique un peu. Hein,
ouais. Parce que
l'imprimeur, quand on fait une commande de 10 000 planches,
c'est un vocabulaire particulier.
Ouais, ça peut coûter très très cher, quoi. L'erreur, quoi, ce qu'on appelle la coquille, qui vient donc d'une erreur.
La couille Saint-Jacques.
Voilà, de la couille Saint-Jacques, quoi. Elle est bien vieille, quoi, celle-là. Mais la coquille, ouais, c'est vraiment, par contre, si on veut parler typographie, si on veut parler impression, c'est vraiment la hantise, quoi. Donc, il y a toujours.
Et c'est jamais notre faute. Hein.
Voilà, il y a toujours des coquilles. Ça, c'est sûr. Après, il faut les trouver. Mais ça, ouais, si on veut parler de la lettre, quoi, qui peut poser problème, franchement, à 10 000 ou à 20 000 exemplaires, d'avoir couille au lieu de coquille, ça le fait pas, ça le fait pas. Moi, le mieux, c'est que pour un commissaire priseur, il y avait une pendule du 17e qui avait fini.
Bien, celle-là.
Pendule du 17e, quoi. Et en oubliant le c'était une pendue, pour commissaire priseur, c'est galère.
J'achète.
On va en parler justement. En tout cas, merci beaucoup Benoît Sicre et Emmanuel Sacré. Donc Benoît Sicre, graphiste, scénographe, et Émile Sacré, excuse-moi, directeur artistique chez Bakelite. On va justement parler des erreurs. Mais en attendant, un petit peu de funk dans la police.
Parfait.
avec Charles Schilling et Pom Pom F, Police Funk. Vous écoutez CPU Carré Petit Utile, le programme du numérique sur Radio FMR. Radio FMR, c'est le CPU Carré Petit Utile et on parle typographie avec Solarus.
Ouais. Et puis on va parler des erreurs de typographie parce que autrefois l'imprimerie elle était réservée à un cercle d'initiés que l'on nomme encore les typographes. À l'aide de leur caractère en plomb, ils imprimaient des pages entières de Bible à l'aide de règles très strictes. Mais avec l'informatique, n'importe qui puisse mettre à taper un texte et à l'imprimer. Et si les règles de syntaxe du français sont généralement connues, les règles de typographie, elles, le sont beaucoup moins. Nous allons passer en revue quelques erreurs très courantes que vous saurez maintenant repérer au premier coup d'œil. Et on va commencer par nos amis graphistes. Alors, pas tous les graphistes, mais je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront. Ceux qui créent une image à partir d'un mot et qui s'amusent à le déformer. Oui, c'est un sacrilège que ceci. On s'amuse jamais à déformer une police à coup de Photoshop, parce que le...
Si.
Les invités sont pas d'accord.
T'as même un Tumblr qui est uniquement dédié aux affiches de films pour reconnaître la police à partir
ça s'appelle
des
formes. Ça fait partie d'un mouvement qui a été nommé le Ugly Design.
Ugly Design. Et parce que quand même, le fondeur qui lui a donné l'essence à cette police, il lui a donné des caractéristiques comme un corps et une graisse. Alors, ami graphiste, si tu veux manipuler une police, il te faudra apprendre à utiliser CSS ou des polices vectorielles. Tu pourras ainsi composer ton œuvre en conservant l'intégrité physique et la beauté de la police, en jouant sur la taille et sur les graisses. Notre prochain exemple est facile à trouver si vous avez sous la main un paquet, par exemple, contenant plusieurs sachets de purée en poudre.
Je vois pas l'apport. J'ai...
vous pourrez par exemple y lire 2x 30 grammes de purée en flocon. Oui, oui, j'ai bien dit 2x et pas 2 fois 30 grammes de purée en flocon parce qu'ils ont utilisé un x à la place de la croix de multiplication et c'est une erreur.
Et nous, on utilise des étoiles, hein, des fois.
Ouais, 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 mais ça, c'est des mauvaises habitudes de développeurs, ça. Et voilà, donc parce qu'en fait, cette croix de multiplication, elle est mal aimée de l'informatique courante et des claviers AZERTY. Pourtant, elle est bien utile pour se distinguer de la lettre x qui, en calcul, est souvent utilisée pour désigner la première variable. Parlons maintenant des espaces insécables. Ils sont partout, mais on ne les voit jamais, au point de souvent les oublier. Un espace insécable se place après une lettre ou un signe de ponctuation et ne doit pas être séparé de cette lettre par un retour à la ligne. Si vous voulez les observer, un bon début, c'est de lâcher Microsoft Office et d'utiliser LibreOffice. Sous LibreOffice, les espaces insécables vous apparaîtront en gris.
Ouais, c'est aussi le cas sous Word.
Ah, mais il faut faire des manies spéciales, je pense.
Non, mais toi, il faut que tu mettes à jour ton Word. Ouais. T'es encore à Word 6 sous Windows 95, toi.
Par exemple, si on prend le symbole euro, il doit être précédé d'un espace insécable afin de ne pas être séparé de la somme qui l'accompagne. Ce serait bête d'avoir 10 000 en fin de ligne et puis euro au début de la ligne suivante. Les majuscules, elles, c'est l'inverse. Elles sont partout alors qu'elles ne devraient pas. Les lettres majuscules sont réservées au début de phrase, au nom propre et pour les abréviations, et c'est à peu près tout. Certaines publicités utilisent des majuscules pour rendre certains mots très importants. Hein, pour reprendre l'exemple de la purée, si vous voyez purée fondante avec un F majuscule, il n'a rien à faire là. Ça, c'est le rôle du gras et du souligné, pas de la majuscule.
Surtout dans la purée,
voilà.
Le gras.
Même punition pour les noms de fonctions. Si DRH ou PDG prennent des majuscules, c'est parce que ce sont des abréviations. La fonction écrite en entier n'en prendra aucune. Ainsi, il n'y a aucune raison d'écrire chef de projet avec un C, un D ou un P majuscule.
Alors, ceci dit, il y a une exception.
Ouais.
CEDIC, c'est une abréviation, mais ouais. Tu écris qu'avec la première lettre en majuscule.
Oui.
C'est si c'est prononçable.
Parce que c'est un nom propre.
Voilà, ça devient un nom propre.
Pour terminer avec les majuscules, vous avez certainement entendu que les majuscules n'ont pas d'accent. Bah, c'est complètement faux. En écriture manuscrite, comme à la machine, il ne faut jamais oublier l'accent d'un E majuscule ou la cédille d'un C. Et enfin, on va parler des guillemets et des apostrophes. Avec votre clavier AZERTY, il y a de grandes chances pour que vous utilisiez les apostrophes américaines, droites et raides, comme les frontières de leurs États, au lieu d'utiliser les belles apostrophes arrondies qu'il convient d'utiliser en français. Même chose pour les guillemets ou le double trait anglo-saxon, cher aux développeurs, est utilisé à tort à la place du double chevron horizontal qu'on vous a appris à l'école. Bref, vous l'aurez compris, peu de maîtres maîtrisent l'art de la typographie et peu de padawans font l'effort de s'y intéresser et de changer pour un glaffier plus adapté à notre langue, par exemple un clavier Beppo.
Non, on va pas y aller sur les claviers. On a prévu avant juin, mais on va pas y aller de suite. Non, on parlera.
Parce que en typographie, un clavier AZERTY en vaut peu.
Oh non. Bon, il est pratiquement 11, il est pratiquement midi, donc je crois qu'on va passer direct à la météo, parce que sinon c'est
boing, la météo boing, d'Internet. Boing, ping, boing, tchac,
ping. Ceci est le dernier bulletin typographique de la première moitié du XXe siècle. Cette année-là, tous les caractères étaient en bois. Le gothique, on ne connaissait que ça. Et la Bible, ça va de soi. Cette année-là, Gutenberg a chamboulé tout ça. Les années de plomb ont pris le pas. Gare à mon sauté de joie. Déjà, Renaudot jouait la presse à Maurras. Partout tomber les caractères bas de casse cette année-là. Marco, je te hais. Ceci est le dernier bulletin typographique de la seconde moitié du XXe siècle. Une vague impression offset, sans relief ni odeur, balaye les cassetins du A, cap courrier, corps 72, maigre au Z, BCD, gras Baskerville 6,5. Ça jette un froid de canard. De toute manière, on a beau se blancher sur le problème, c'est la loi des sérifs. Les gens sont comme ça lorsque le pic à glace ou lorsque le cadre atteint la limite d'âge et se rend compte qu'il ne fera jamais de l'élite à cause de son sale caractère. Faut pas chercher à piger, il n'y a plus de justif. Mais bon, aujourd'hui, même l'imprimerie offset a du plomb dans l'aile. Elle a bien tenté de se montrer Kalinotype qui a inventé la presse en ligne. En vain, elle n'a pas pu se faire acheter elle-même. Désormais, l'article est sitôt écrit, sitôt publié. L'on ne demande même plus s'il faut lancer les rototo ou pour imprimer un canard tard. Et hélas, on ne chante plus. À la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. C'est la chanson à boire des typographes, voilà, vous le saurez maintenant. Marc, je te l'ai. C'était CPU, le programme carré petit utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Myriam Chav, chef Kerning Officer, Solarus, chef Curvist Officer, Marco Lanier, chef Typographist Officer, Daskritch, chef Symbolist Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de Radio Éphémère depuis les locaux de Bakelit. L'intégralité du programme, des extraits et des sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. Prochaine release Wikipédia, une encyclopédie collaborative. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio Éphémère Analogique, il est presque midi, l'heure de Monique Blanquet pour son impromptu cultivé et ses impressions sur planche. Et là, un jingle en bas de casse.